Recoin de la Bible, un podcast pour nous immerger dans les Écritures.
Le Nouveau Testament dit que les rachetés sont étrangers et forains sur la terre. Aujourd'hui, nous allons lire ces passages et nous pencher principalement sur la portée du mot « forain ». Bonjour Étienne.
Bonjour Hervé.
Alors, qu'est-ce qu'un forain selon les Écritures ?
On retrouve cette expression trois fois dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, qui va nous intéresser aujourd'hui. Et donc on peut faire la lecture de ces trois passages, sans trop étendre la lecture. Et donc dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, nous voyons au verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. » Nous avons une deuxième citation dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, et au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles lesquelles font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête parmi les nations, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous comme de gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Et enfin, la troisième citation, on la trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 13. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. On peut peut-être quand même parler un peu de la conception qu'on a du mot « forain » aujourd'hui. Quand on parle de « forain » aujourd'hui, on voit des personnes du voyage, les gens du voyage, et qui circulent ainsi de ville en ville. Bien sûr, ils ont leur côté particulier, et ils ont des activités aussi qui peuvent attirer le monde. Et il y a donc cette caractéristique dans le mot « forain » que l'on peut retenir, c'est que ils viennent, ils restent un moment, et puis ils s'en vont.
Oui, c'est donc quelqu'un qui est de passage. Mais le Nouveau Testament, évidemment, a tout autre caractère que ces gens de passage dont tu viens de parler, et qui s'installent dans une ville pour peut-être même le divertissement de certains, et qui repartent.
Mais c'est l'Épître aux Éphésiens qui, dans ce premier passage que nous avons lu, qui fait justement cette belle différence, puisque alors que nous sommes exhortés, encouragés en tout cas, à être forains et étrangers dans l'Épître de Pierre, l'Épître aux Éphésiens vient nous montrer que vous n'êtes plus étrangers ni forains. Alors ça, c'est l'aspect de ce que nous sommes sur la terre. Et il y a quelque chose de bien plus grand derrière, c'est cette position d'être concitoyen des saints et gens de la maison de Dieu.
Donc, si je comprends bien, en Éphésiens 2, il est dit que nous ne sommes plus étrangers ni forains, on pourrait dire quant aux choses, par rapport donc aux choses de Dieu, nous sommes maintenant inclus dans les révélations de Dieu, qui nous a fait par grâce don de toutes choses. Nous ne sommes plus étrangers aux promesses de Dieu. Par contre, nous sommes concitoyens des gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont nés nouveaux, qui font partie de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Et, dans la première épître de Pierre, le fait d'être né de nouveau, eh bien, fait que, du point de vue de notre vie sur la terre, de notre comportement, nous sommes forains et étrangers par rapport aux gens du monde. Donc, non plus forains et étrangers par rapport à Dieu, mais forains et étrangers par rapport au monde. C'est juste?
C'est tout à fait comme ça, et donc ça nous montre justement que les choses de la terre doivent avoir de moins en moins d'attrait pour nous, et les choses du ciel doivent occuper nos pensées et remplir nos cœurs davantage chaque jour.
Oui, d'ailleurs, dans ces expressions de forain étranger, donc dans un passage, il est dit forain et étranger, dans l'autre, il est dit étranger et forain. Ce mot forain donc, veut dire non pas seulement que nous sommes de passage, mais aussi que notre maison n'est pas ici. Notre maison n'est pas sur la terre. Il n'y a pas de demeure permanente que nous puissions établir sur la terre. Elle est ailleurs. Et c'est là que nous nous rendons. Nous sommes en chemin vers notre maison qui n'est pas de ce monde. Et aussi, donc, ça veut dire que nous sommes étrangers. C'est ce que c'est un étranger? C'est quelqu'un qui n'est pas parmi les siens. Un étranger qui vient d'ailleurs, eh bien, il a d'autres coutumes. Il parle différemment, il pense différemment, il agit différemment. Et en tant qu'étranger, parmi les gens du monde, eh bien, nous devrions aussi agir différemment.
Et donc, cette position de forain, principalement, nous montre, en effet, que par la naissance naturelle, nous sommes des gens de la terre, par la nouvelle naissance, nous possédons maintenant cette citoyenneté, mais du ciel. Bien sûr, sur notre carte d'identité, sur tous les documents que nous possédons, nous avons une adresse sur la terre, nous avons un lieu de naissance, nous avons une nationalité, et beaucoup de personnes sur la terre défendent souvent ces aspects de la nationalité, de la culture, de toutes les choses que l'on connaît, de toutes les us et coutumes que l'on pratique et qui peuvent être montrées, et un étranger va découvrir justement ce qui se passe dans un autre pays, dans une autre région, de voir toutes ces choses différentes. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que celui qui devient cet étranger, ce forain, il acquiert une citoyenneté dans le ciel, où toutes les choses sont les mêmes pour tous ceux qui l'ont acquis.
Oui, parmi les gens du monde, tous ceux qui naissent à la surface de la terre, eh bien, les cultures sont différentes, les us et coutumes sont différentes, les schémas de pensée sont différents. Et ça pose beaucoup de problèmes d'ailleurs, source de toutes sortes de conflits, alors que tous ceux qui sont nés de Dieu obtiennent la même citoyenneté, qui est celle des cieux, et la même, on va dire, échelle de valeur qui est basée sur la seule et unique parole de Dieu. Et tous ceux qui sont nés de nouveau également reçoivent l'Esprit Saint qui est unique et qui guide dans toute la vérité.
Et d'où cette expression d'Éphésiens, nous sommes concitoyens des saints. Donc tous ceux qui sont rachetés par l'œuvre du Seigneur Jésus, par sa mort, par sa résurrection, sont maintenant des saints. Donc il y a là aussi cette pensée de la séparation par rapport au lieu où nous nous trouvons, mais nous sommes concitoyens. Donc nous avons en commun toutes ces choses divines, célestes, merveilleuses qui nous sont données dans la parole.
Toutes ces choses, toutes ces bénédictions en Christ sont identiques pour tous les enfants de Dieu, tous les rachetés, tous ceux qui sont nés nouveaux, quel que soit le lieu, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture et quelle que soit l'époque, même, on pourrait dire. C'est merveilleux. Et ça nous fait penser, on en parlera peut-être encore tout à l'heure, qu'en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a pas de différences qui sont uniquement terrestres. Et qu'en Christ, il n'y a plus cela. Nous sommes concitoyens d'une même famille, concitoyens des saints, concitoyens des gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire de la famille de Dieu.
Et on voit d'ailleurs historiquement comment tous ces grands royaumes ou ces empires se sont constitués, où les hommes ont essayé de faire que toutes ces personnes qui étaient de contrées différentes aient cette même citoyenneté terrestre, cette même pratique. On le voit dans le cours de l'histoire, combien les choses ont été imposées, certaines ont été laissées, mais c'était toujours dans le but final quand même qu'à un certain moment, il y ait cette même conception de la vie à travers des royaumes assez imposants et grands, qui couvraient des grandes parties de la Terre.
Oui, c'était un effort d'assimilation, on pourrait dire, qui est imposé dans le monde par des facteurs extérieurs à la personne, alors que dans notre cas, il ne s'agit pas d'assimilation, il s'agit, par la nouvelle naissance, eh bien, d'être rendu conforme chacun à Christ, qui est notre point commun. Et dans cette unité, qui est cette citoyenneté du ciel, il y a aussi une variété qui est merveilleuse, qui est harmonieuse selon l'Esprit-Saint.
Tout à fait, chacun dans l'exercice de ce que le Seigneur Jésus lui a donné, dans sa grâce, de comprendre et de pouvoir alors servir. Et donc chacun aussi garde, malgré tout, reçoit un service différent. Mais toutes ces choses se font justement dans cette harmonie pour nous former pour le ciel, nous préparer pour être justement ces citoyens là-haut dans le ciel lorsque le Seigneur viendra chercher son Église.
Oui, et d'ailleurs, cette harmonie, elle se met en place parce que même tous ces concitoyens du ciel qui sont encore sur la terre pour un temps, eh bien, ils ont un seul but, ils ont un but commun, c'est-à-dire la gloire du nom du Seigneur Jésus. Alors c'est important de se rendre compte que nous sommes forains sur la terre. Et on pourrait peut-être dire aussi expatriés, puisque notre patrie est dans le ciel, nous sommes expatriés. Alors expatriés, ça contient une certaine dignité. Nous ne sommes pas des migrants, nous ne sommes pas des réfugiés, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes là comme expatriés. C'est-à-dire que un expatrié, en général, est envoyé de son chef, de son maître, pour une mission. C'est-à-dire que un expatrié arrive dans un pays, dans une terre, avec un savoir-faire ou quelque chose qu'on ne trouve pas dans cet endroit. Et il arrive pour l'apporter. Alors qu'un réfugié, lui, serait plutôt l'inverse. Il viendrait dans ce pays parce qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche dans un autre. Donc il y a cette dignité et cette mission qui est donnée à tous ces forains que nous sommes par la foi d'apporter dans ce monde quelque chose que ceux qui s'y trouvent et qui n'ont pas encore trouvé Christ pour leur sauveur n'ont pas.
Nous possédons alors aussi, comme différence, un aspect terrestre et temporel pour ceux qui n'ont comme existence que la terre, où ils essayent de posséder, de s'améliorer, de rendre leur vie la plus agréable possible, avec beaucoup de soucis, beaucoup de travail. Et celui qui possède le Seigneur Jésus, qui lui est céleste, ce qu'il va posséder n'est plus quelque chose qui va disparaître, quelque chose qui se transforme, qui ne reste pas dans la même position, ni dans la même constitution, il y a ce côté céleste, et les promesses de la parole sont là, devant nous, dans tout ce que nous allons posséder. L'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 10, quelques versets avant ce que nous avons lu, nous parle de ces Hébreux, qui dans le début du livre des Actes, où nous voyons qu'ils vendaient leurs biens, certains ont eu cette difficulté, c'est qu'on leur a enlevé leurs biens. Donc, dans le chapitre 10, au verset 34, « Vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents.
» Très joli, ça. Voilà. Mais il faut en être convaincu par la foi. Parce que quand on vit à l'étranger, on voit des choses, alors on entend des choses, et il y a certaines choses qui choquent, mais il y en a aussi certaines qui peuvent séduire. Et ce serait dommage, en tant que forain étranger, spirituellement parlant, dans ce monde où nous ne faisons que passer, de nous accrocher, de nous laisser séduire par des choses qui ne demeurent pas. Alors que nos biens célestes, eux, sont immenses et permanents.
Et tout ce que Dieu veut nous apporter, son esprit, on l'a déjà cité, l'esprit de Dieu, nous apporte en effet cette révélation. C'est d'ailleurs dans deux évangiles où il nous est montré que le Seigneur Jésus va nous envoyer un autre consolateur lorsqu'il quitte cette terre. Je vous enverrai un autre consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. C'est donc lui qui vient nous montrer les choses meilleures et permanentes qui sont dans le ciel. Mais nous avons aussi la Bible, ce que Dieu nous a donné dans sa révélation, dans toutes ses pensées, dans le déroulement que l'on peut voir de tout ce qui s'est passé précédemment. Et il nous annonce déjà comment les choses vont se dérouler bientôt.
Oui, nous avons d'énormes ressources, des ressources divines. La parole de Dieu, le Saint-Esprit en nous, pour nous faire comprendre la parole de Dieu, pour nous diriger. C'est une question de vie pratique. Alors nous qui connaissons la vie et tous les trésors de la divinité, eh bien, en tant que forains, c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Nous devons vivre par la foi, marcher par la foi. Il est dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et ce serait dommage de s'arrêter dans ce monde ou d'arrêter nos regards sur les choses du monde en pensant qu'elles ont de la valeur, alors que la parole nous dit clairement que tout ça va passer et que nous allons au ciel et que nous ne pourrons rien emporter. Rien de ce monde n'entrera dans le ciel. Un autre aspect qui me paraît important aussi, c'est que, imaginons la population du monde, et dans ce monde, seuls les forains du Nouveau Testament, que nous sommes, par la grâce, seuls les forains ont la vie. Seuls les forains sur cette terre ont la vie de Dieu et sont sauvés. Alors forcément, nous sommes différents des gens qui ne connaissent pas Dieu, puisque nous connaissons Dieu, nous connaissons sa grâce, nous connaissons sa sainteté. Nous avons le Seigneur Jésus pour sauveur, pour maître, pour bon berger. Ça change tout à notre façon de marcher dans ce monde, à notre façon de penser, à notre façon de parler. N'oublions jamais que, en tant que forains, nous sommes en chemin vers la gloire du ciel, alors que les gens du monde sont en chemin vers la perdition, tant qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Nous, en tant que forains, nous savons, parce que nous le lisons dans la parole de Dieu, que notre chez-nous n'est pas ici. Notre chez-nous n'est pas sur la terre. Notre chez-nous, c'est dans la présence de Dieu qui sera établie pour toujours dans le ciel. Alors que leur chez-eux à ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est sur la terre. Des briques, une maison terrestre faite de main, sur la terre où tout passe, qu'ils devront quitter pour aller un jour peut-être en enfer. S'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus avant ça. C'est quand même une différence qui devrait nous parler. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut posséder sur la terre, si on n'a pas Jésus-Christ dans la vie, c'est rien, ça ne vaut rien, ça va passer. Alors que nous qui avons le Seigneur Jésus, tant que nous sommes encore sur la terre, même si nous avons peu, nous avons le Seigneur Jésus pour l'éternité. Quelle différence dans notre façon de voir les choses quand on accepte cela dans son cœur. Parce qu'il faut l'accepter. Donc, le mot forain se rapporte à un aspect terrestre. Nous sommes forains tant que nous sommes sur la terre. C'est donc aussi un aspect temporel. Un jour, nous arrêterons d'être forains lorsque nous serons introduits dans le ciel, dans la présence du Seigneur, pour toujours. Alors que, si nous revenons, nous avons parlé de nous sommes également concitoyens, cet aspect de citoyen, celui-là, il est céleste, et donc il est permanent, il est éternel. Mais nous sommes déjà maintenant, alors que nous sommes encore forains, nous sommes déjà maintenant citoyens du ciel. C'est merveilleux, n'est-ce pas?
Mais c'est aussi, dans l'Épître aux Philippiens, on peut ajouter encore cette portion, ce verset, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, puisque nous parlons de cette citoyenneté. Philippiens 3, verset 20, « Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a, de s'assujettir même toute chose. Notre bourgeoisie est dans les cieux. » Et cette bourgeoisie fait sans doute penser historiquement à cette catégorie de personnes qui avaient obtenu ce titre de bourgeois. Mais ici, cette bourgeoisie est en relation justement avec cette position céleste. Tous ces droits qui nous ont été obtenus par l'œuvre du Seigneur Jésus, qui sont notre part maintenant, cet héritage qui est préparé dans le ciel, qui est conservé pour nous dans le ciel. Et voilà ce côté céleste, permanent, éternel, c'est que nous avons cette richesse, on peut parler de cette richesse de la gloire du Seigneur Jésus, de la gloire de Dieu, de la gloire du ciel, qui nous est déjà préparée. Parce que quand Dieu nous parle, bien sûr, nous sommes encore sur la terre, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, mais par la parole, nous voyons que dans la pensée de Dieu, toutes les choses sont déjà réalisées dans le ciel.
Ah, si nous pensions plus souvent à ces richesses innombrables et infinies qui nous ont été acquises et données par la grâce et qui sont dans le ciel et qui nous sont réservées, ça changerait notre façon de marcher et de nous comporter sur la terre. Nous donnerions beaucoup moins d'importance à ce qui se trouve autour de nous sur cette terre. Nous serions beaucoup moins attirés par ces choses du monde si nos cœurs étaient vraiment fixés et attachés à ce qui est au-dessus, au-delà. Et les valeurs terrestres, qu'elles soient mobilières ou immobilières, n'auraient plus d'attrait. Elles seraient juste utiles pour faire l'œuvre du Seigneur dans notre vie et non pas pour nous-mêmes. L'apôtre Paul parle en Philippiens 3, lui qui avait, on peut le lire, Philippiens 3, verset 7, l'apôtre Paul qui lui avait par naissance dans ce monde, eh bien, a reçu une citoyenneté romaine, étant juif, avec une culture forte, des coutumes très fortes, un certain nationalisme même très présent, eh bien, il dit en Philippiens 3, verset 7, « Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes ces choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ. » Ce sont des paroles fortes, mais c'est ça l'effet de la parole de Dieu, de l'esprit dans l'âme d'un véritable croyant qui enfin ouvre les yeux sur les choses de la terre qui ne font que passer. Même si on en avait tiré un très grand orgueil auparavant, elles n'ont plus d'importance en comparaison avec l'excellence de la connaissance de Christ et de ce que Christ nous a apporté et de ce qu'il nous a donné.
C'est un bel exemple de l'apôtre Paul, parce que on ne va pas relire tout ce qu'il apporte lui-même comme qualité et comme titre qu'il pouvait avoir reçu. Mais on sait que nous le voyons les premières fois dans les Actes des Apôtres comme étant Saul de Tarse.
Oui.
Citoyen romain. Mmh.
Voilà. Avec une appartenance très, très géographique même.
Et maintenant, on le voit parler justement de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus.
L'aspect pratique dans la marche en nouveauté de vie, eh bien, ne sera réel que si le cœur jouit véritablement des choses du ciel, là où le Seigneur se trouve, déjà maintenant. Et en fin de compte, quand nous lisons un passage comme celui-là, qui est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, eh bien nous comprenons que ne pas se conformer au monde n'est pas une chose pénible. Si on a compris ce qu'on possède à la maison, c'est-à-dire au ciel, en Christ, on n'a pas envie de moins. Est-ce qu'on pourrait nous proposer dans ce monde? Bien, c'est forcément décevant. Dans le monde, c'est même pas moins que ce que nous avons dans le ciel. C'est rien. C'est du vent. Vanité des vanités. Tout est vanité. Qui se plairait ou qui aurait envie de s'établir dans une terre ou un pays de désolation, où les gens meurent, les gens se trompent mutuellement, ils se mentent, etc. Plein de violence. Ils volent. Où tout se décompose. Alors que notre patrie est merveilleuse et nos biens célestes sont permanents. Ils ne vieillissent pas et sont vertueux, bienfaisants, rafraîchissants, en abondance et gratuits.
L'apôtre Paul est donc un exemple merveilleux de cette position de forain sur la terre. Afin de gagner Christ, tendant avec effort, dans le même passage, dans les versets qui suivent dans Philippiens, il y avait donc pour lui ce désir permanent de connaître davantage, afin de le connaître lui, peut-il dire aussi dans ce passage. Eh bien, cela nous montre combien nous avons à connaître, à sonder davantage, à nous approprier davantage toutes ces choses du ciel.
Oui, l'apôtre Paul, donc, qui était un juif nationaliste et persécuteur des chrétiens, des citoyens du ciel, eh bien, c'est quand même lui qui, après sa conversion et après sa relation avec le Seigneur vivante, et les relations qu'il a reçues de la part de Dieu, c'est quand même lui qui dit que dans l'Église en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Colossiens 3, verset 11, par exemple, il dit « Il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. » Voilà le point commun des citoyens du ciel. Toutes ces différences de la terre, elles disparaissent. Elles devraient disparaître. Devant Dieu, elles disparaissent. Il ne faudrait pas les maintenir devant nos yeux, alors que Dieu dit non. Désormais, c'est Christ le centre, et nous sommes tous en Christ.
Un autre exemple donc qui nous est donné, que l'on peut considérer, on a lu dans l'Épître aux Éphésiens, et on peut voir justement dans cette ville comment l'apôtre Paul justement l'a visité, l'a enseigné pendant un long temps, et le résultat merveilleux qui s'en est suivi. Et on voit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19 et au verset 18, « Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient, confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. » Et ils en supputèrent le prix, et ils trouvèrent qu'il se montait à 50 000 pièces d'argent. C'est avec une telle puissance que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force.
Quelle puissance ! Être prêt à brûler tous ces biens matériels d'une grande valeur dans ce monde, tout ça par amour pour le Seigneur, dans un sens. Parce qu'ils ont compris quelque chose de très important, que ces choses étaient néfastes à leur âme, alors ils préfèrent les brûler. Ils n'ont même pas essayé de les vendre pour en retirer du gain. Ces choses-là ne doivent même pas être transmises à d'autres âmes. Ces choses-là doivent être détruites, peu importe le manque à gagner et la perte d'argent. Ça montre bien, de manière très concrète, comment des chrétiens, des gens qui ont compris qu'ils ne sont plus du monde, peuvent agir pour leur bien spirituel et pour la gloire du Seigneur.
En sachant que dans cette ville d'Éphèse, il y avait justement cette idolâtrie qui existait, qui était permanente. Beaucoup de, de moyens étaient développés pour apporter ainsi à ces idoles un culte. Et voilà ce demi-tour, comme les Thessaloniciens qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus.
Ils se sont tournés des idoles vers le Dieu vivant et vrai. Exact. Et cela nous montre que c'est un processus assez rapide. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir une grande connaissance de la Bible ou des choses de Dieu. C'est qu'il y a cet instinct spirituel d'un enfant de Dieu qui naît de nouveau véritablement par l'Esprit, qui l'amène, comme ces croyants à Éphèse, ces nouveaux croyants qui brûlent ces livres, qui les amène à se détacher très vite de leur culture, de leur schéma de pensée, de leurs coutumes, de tout ce qu'ils avaient reçu comme enseignement jusque-là. Bien sûr, il y aura ensuite probablement un travail chez chacun pour progresser dans la connaissance des choses de Dieu. Mais dès le départ, nous voyons cela. Cet exemple aussi des nouveaux croyants à Éphèse nous montre qu'être forain, de manière très concrète, comme ils l'ont démontré, comme ils l'ont prouvé, n'est pas le lot, la part de l'un ou l'autre serviteur en particulier, comme on pourrait dire, oui, comme le grand apôtre Paul. Non, c'est la part de tous les croyants. C'est ce que Dieu désire pour chacun de ses rachetés.
Et on peut confirmer encore cette pensée en revenant dans Hébreux 11, où on voit cette liste de personnes qui, par la foi, ont acquis cette espérance et qui les a guidés pendant tout le restant de leur vie. Nous l'avons lu. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises. On quitte le chrétien, le croyant, le racheté du Seigneur, ferme les yeux à cette terre, mais en ayant devant lui l'assurance ferme, cette conviction qu'il va être accueilli là-haut dans le ciel et qu'il pourra alors considérer ces choses. Et il nous est dit ici, les ayant vus de loin et salués. Voilà, nous voyons par la parole, par l'esprit, ces choses qui nous sont annoncées de ce que sera le ciel, de ce que sera cette présence de Dieu, cette présence du Seigneur Jésus, ces choses que l'on ne peut pas comprendre sur la terre pleinement, parce qu'elles nous dépassent de beaucoup. Mais on voit combien, en effet, il les avait vus de loin saluer, que chacun d'entre nous puisse justement entrer dans cette vue par la foi des choses merveilleuses du ciel et de confesser que nous sommes étrangers et forains sur la terre.
À bientôt pour d'autres sujets bibliques.